avec vous, Ludo Frenne, le grand témoin.
En ce jour où la France doit normalement être bloquée, on va s'intéresser au sens du travail et de cette croyance moderne à laquelle notre activité est reliée, qui est la croissance. La mobilisation contre la réforme des retraites est-elle un prétexte d'ailleurs pour désavouer un système économique dont on comprendrait moins le sens aujourd'hui, dont on récuserait les effets dommageables, en particulier sur l'environnement, la justice sociale. Gérard Leclerc nous parlait tout à l'heure de notre rapport au temps libre, alors que on risque d'ignorer ceux qui mettent en œuvre nos capacités. Voilà pour le rapport au travail. Et puis, côté croissance, eh bien, les chiffres viennent de tomber. La croissance française a atteint 2,6% en 2022, nous apprend l'INSEE ce matin. Alors, on va essayer d'en voir certains aspects, puis d'y voir un petit peu plus clair. Selon l'analyse que va en faire Denis Jacquet, qui est avec nous, chef d'entreprise, fondateur de Parrainer la croissance, et qui est venu régulièrement sur ce plateau dans Le Grand Témoin. Bonjour Denis Jacquet.
Bonjour.
La croissance, on en a une idée, une définition bien, bien claire?
Non, je crois que... Il y a beaucoup de définitions qui mériteraient une petite revisite.
Oui, parce qu'il y a des mots qu'on emploie comme ça.
Mais... Oui, parce qu'au-delà de la croissance, ce qui devient de plus en plus important, c'est de savoir à qui elle profite. Bon. Et quand on observe, alors pas seulement la France, mais la plupart des pays occidentaux, la croissance, elle est de moins en moins bien répartie. Bon. Grosso modo, les classes moyennes ont quand même un effondrement qui est assez régulier depuis les 20 ou 30 dernières années. Et l'espoir d'y participer diminue un petit peu plus. Donc, quand on regarde, alors pour moi qui vis aux États-Unis, quand on prend les années 70, les possibilités pour une personne d'améliorer la situation sociale de ses prédécesseurs, c'est-à-dire de ses parents, étaient quasiment de 90%. À peu près 30 ans après, elle était passée aux alentours de 50%. On estime qu'en 2030-2035, elle sera au mieux à 35%. Donc ça veut dire qu'au-delà de ces chiffres du PIB, au-delà de ces chiffres de la croissance, etc., on a mis en place des indicateurs qui ne sont plus les bons. Donc ils sont toujours là, on peut toujours les mesurer, mais en fait, ils ne servent à rien puisqu'ils ne nous donnent pas un indicateur de ce qu'est vraiment la richesse exacte de chaque individu.
Comment elle se répartit ?
Et surtout, ils ne donnent pas l'indicateur d'à quel point les gens continuent à croire au système et qui est mesuré de cette façon. Et forcément, si vous dites aux classes pauvres qui sont de plus en plus pauvres, ce qui est le cas maintenant, enfin des travailleurs pauvres, on a ça par wagon maintenant. Quand on pense à cette classe moyenne qui est l'articulation, la base et l'alpha et l'oméga d'une société qui se dégrade, et une toute petite partie, mais énorme en quantité de riches et de super riches qui augmentent, avec une richesse qui est de plus en plus captée par un nombre de plus en plus restreint. Effectivement, tout à coup, vous perdez surtout le sens à travers de ces chiffres de la capacité des gens à croire dans un système dans lequel ils évoluent.
C'est ça, donc, la croyance s'effondre.
Voilà, donc la croyance s'effondre. Alors ça, du coup, presque philosophiquement, on pourrait tendre... C'est-à-dire que les gens, finalement, ne croient plus en rien. C'est-à-dire qu'ils ont parfois remplacé un peu la religion par la science par la politique, l'idéologie est devenue une autre forme, et puis tout à coup, tout ce à quoi ils croyaient pour remplacer n'existe plus. Donc ils n'ont plus ce qu'ils avaient avant, et ils n'ont rien de ce qu'ils pensaient avoir après. Donc ce n'est pas facile pour articuler une société et la baser un petit peu là-dessus. Donc du coup, je pense que ces chiffres, c'est des indicateurs, mais ça devrait être des indicateurs parmi tant d'autres. Et plus l'indicateur majeur, on dirait « Ah, on a de la croissance, donc tout va bien ». Ben non, tout va pas bien.
Ça et pourtant, on a toujours les mêmes indicateurs.
On a les mêmes indicateurs. Je pense qu'il y a une espèce de forme de paresse intellectuelle. Alors aussi, on a vu au fur et à mesure des années dire « Tiens, on devrait mesurer l'indicateur du bonheur ». Alors il y a des gens très bucoliques aussi.
Oui.
Alors,
qui comme
vont
au Bhoutan.
Justement un peu loin dans la poésie, ce qui fait que les gens disent « Bon, attends, c'est encore un illuminé qui a fumé un peu trop de substances interdites ou pas interdites, mais en gros, passons à autre chose ». Mais en réalité, la capacité aux gens de croire à l'impact de cette croissance serait quand même beaucoup plus intéressant que de savoir si on en a ou si on n'en a pas. En plus, quand on se promène dans les rues, quand on va sur les territoires, on se dit qu'on ne doit pas avoir la même conception de la croissance à Paris qu'en province. Bon. Et puis, alors, à nouveau, ce n'est pas un mal uniquement français, c'est partout. Enfin, les territoires italiens, les territoires espagnols, tout le centre des États-Unis hors urbain, c'est juste un
nomadisme. C'est le retrait des services publics.
C'est le retrait des services publics.
Du tissu aussi, industriel.
Voilà. Alors, en fait, c'est une espèce de mouvement qui fait que, progressivement, toutes les études montrent qu'avant, les grandes villes innervaient un espèce de rayon autour d'elles d'une centaine de kilomètres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Elles innervent rien du tout, mais elles s'innervent entre elles. Donc, en fait, les grands centres se sont connectés les uns aux autres, Paris, Tokyo, Los Angeles, etc. Tout s'y concentre. Et une étude de l'INSEE, je crois, puisqu'on parlait de l'INSEE tout de suite, qui a moins de 6 mois, me semble-t-il, indiquait effectivement à quel point l'essentiel des investissements en formation, en investissement pur et en croissance était fait sur Paris et la région parisienne et quasiment rien. Donc Paris, qui représentait jusqu'ici un tiers
quasiment rien
ailleurs. Français, représente en fait 2/3 de tous les moyens qu'on mobilise dans ce pays. Enfin, c'est une hérésie totale. Donc on a 36 000 communes et il n'y en a qu'une, qui en plus est gérée d'une façon qu'on pourrait remettre en cause. À chaque fois que je viens à Paris, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a fait de cette ville? Donc,
Miami, c'est mieux.
Truc post-guerrier. Bah, Miami, en fait, fait partie des villes qui n'ont pas confiné, qui ont interdit le pass sanitaire, qui ont dit, mais cette maladie est une maladie qui n'est pas si terrifiante que ça. Elle avait 6 000 lits d'hôpitaux pour 22 millions d'habitants, donc elle était équipée. Et effectivement, De Santis, qui est le candidat le plus probable avec ou après Trump aujourd'hui, est le gouverneur le plus populaire aux États-Unis, parce que simplement, il dit, bah, écoutez, regardez, vous avez vu, on n'a pas confiné, on n'a pas fait de passe passif, on n'a pas imposé le vaccin, on n'a pas plus de morts que les autres États, et on a juste une croissance économique insolente parce qu'on n'a pas tué toute l'économie. Et on n'a pas créé tout ce qu'on a créé dans le monde aujourd'hui avec cette hystérie collective qui s'empare de nous. Enfin,
pourquoi, Denis Jacquet, quand vous dites avant, on avait l'espoir d'améliorer le sort de nos parents, de nos grands-parents, pourquoi est-ce que c'est possible encore aux États-Unis? On peut arriver encore dans ce pays en se disant, tiens, je vais améliorer mon sort.
Oui, mais
ici, ça semble
vrai. Ouais.
Mais ici, ça semble beaucoup plus difficile que ça ne l'est encore là-bas.
J'ai cité les chiffres américains parce que j'avais plus en chiffres, j'avais plus en tête les chiffres français, mais ils sont exactement les mêmes. Enfin, en Italie, en Espagne, partout. Enfin,
oui.
Bon, de toute façon, tout le monde s'accorde depuis 10 ans à dire que l'Europe a fait 7 siècles, c'est exceptionnel, elle décline. Le Covid a montré à quel point elle était impuissante, l'Ukraine un petit peu plus, et donc grosso modo, on voit bien qu'économiquement, le centre du monde ne se fait plus là. Culturellement encore un petit peu, économiquement on a encore de beaux restes, donc on va encore tenir, mais c'est une régression, c'est un peu comme la montée des eaux, bah c'est l'inverse, nous l'eau elle baisse dans l'autre sens inexorablement, ce qui fait que c'est l'effet de la grenouille, tant que ça n'a pas disparu, on se dit bah, il y a toujours de l'eau, bon, ou alors c'est l'histoire du suicidé qui dit au 28e étage, jusqu'ici tout va bien. Donc du coup, on est vraiment dans cette situation-là, mais on est en déclin, l'Asie continue inexorablement à monter, et les États-Unis se tiennent, et aujourd'hui... Tous ceux qui sont à peu près réalistes sur le sujet savent très bien que les États-Unis jouent le conflit en Ukraine parce qu'ils voient bien que ça affaiblit l'Europe. Ils veulent à nouveau la rendre dépendante des États-Unis comme ils l'ont fait à la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, et l'Europe fonce tête baissée en disant « combat pour la démocratie ». Bon, ça ne les empêche pas d'aller chercher du pétrole en Iran ou chez Maduro au Venezuela, qui sont des gens extrêmement fréquentables. Mais voilà. Donc, du coup, non, les gens n'y croient plus. Et surtout, ils n'y croient plus sur les territoires. Enfin, vraiment, les gilets jaunes, ça a été le début de prise de conscience qu'il se passait un truc dramatique avec des gens qui n'y croyaient plus sur leur territoire. Il y avait des gens un peu cinglés, mais il y avait des gens qui étaient d'une sincérité absolue, qui disaient, mais je meurs. Enfin, moi, je suis né en Basse-Normandie. Quand je vois ce qu'était ma ville, je l'appelais comme ça, aux mains des socialistes depuis 40 ans, qui était une ville avec du textile, de l'acier, des entreprises, il n'y a plus rien. Et je sais que vous recevez...
Alors, il n'y a plus rien, pourquoi ?
Il n'y a plus rien, parce que d'abord, le textile a disparu de toutes nos rues depuis très longtemps. Merci la grande distribution, la délocalisation, les t-shirts à 1 €, en gros, à un moment donné, bah, vous pouvez les faire qu'en Chine, en Thaïlande ou ailleurs. Bon. La deuxième chose, bah, c'est que l'acier, même chose. On avait misé sur des industries qui sont progressivement, qui tout était délocalisé pour des raisons de coûts. Puis surtout parce que sur un territoire, quand une entreprise meurt, elle ne repousse pas. Voilà. Et donc, et parce que bah, aujourd'hui, avec les métropoles, on a à nouveau concentré sur la métropole des métropoles et on assèche les autres, on les rend à la fois asservis. En gros, attention, je pilote tout le budget, donc si tu veux voter pour moi, je vais te donner un peu de budget, mais ça n'entendra pas. Et grosso modo, on est en train de tuer l'investissement dans les territoires qui n'existent plus. Donc, bah, du coup, les gens qui meurent dessus, meurent dessus. Et aujourd'hui. Dans la maison de ma grand-mère qui s'est déplacée pour fuir pendant la guerre. Aujourd'hui, vous avez une maison de 4 chambres pour 25 000 euros. Alors, ça pourrait dire, bah, c'est une aubaine pour ceux qui achètent. Ben non, parce que sur place, ils n'ont même pas les moyens d'acheter 25 000 euros. Et surtout, c'était un capital qui pouvait se transmettre à la génération d'après, qui ne se transmet plus. Parce qu'avec 25 000 euros, vous ne pouvez même pas, comme on disait quand j'étais petit, monter à la ville. Avec 25 000 euros, le loyer, le coût ne vous permet même pas d'y aller. Donc, il y a un désespoir. Donc, on peut avoir de la croissance économique, mais en gros, si elle profite à très peu, elle n'a strictement aucun intérêt.
Ouais. Denis Jacquet, la mobilisation contre la réforme des retraites, elle dit tout ça, en fait, en filigrane, plus que le fait de dire « je vais travailler 2 ans de plus, Et d'ailleurs, il faudrait voir les choses dans le détail. On l'a dit sur notre antenne, il faudrait faire du cas par cas, secteur par secteur, pour voir vraiment. On sait qu'il y a des caisses qui sont déficitaires, d'autres qui ne le sont pas. Sans entrer dans ce détail-là, est-ce qu'il y a une lecture différente, plus profonde à faire de cette mobilisation ?
Bon, alors, on va évacuer les étudiants qui, avant de rentrer dans la vie, se posent déjà la question de savoir à quel âge ils vont en sortir. Donc, qui commencent à bosser, puis on en reparle un tout petit peu après.
C'est vrai que c'est fréquent dans les entretiens d'embauche.
Ensuite, il y a ces grands-parents ou ces prêts au seuil de la retraite qui aiment, soi-disant, passionnément leurs enfants, leurs petits-enfants, ces têtes blondes ou pas blondes qu'ils adorent, mais pour lesquels ils ne veulent pas bosser 2 ans de plus alors qu'ils ont gagné 15 ans d'espérance de vie en 2 générations. Une variation. Puis en plus, on vit plus vieux et en mauvaise santé. Alzheimer, Parkinson, etc. Donc ça coûte cher à la société. Il faut bien que quelqu'un le paye. On a 1,5 cotisant pour quatre retraités. Donc l'équation, mathématiquement, globalement, elle ne fonctionne pas. Bon. Après, il y a un égoïsme sans nom. À un moment donné, il faut savoir aussi qui dit qu'il n'a pas envie de la retraite. Les syndicats, bien évidemment, parce que c'est des machines à faire que ça ne change jamais, donc forcément, à partir de là.
Et puis, ils ne veulent pas de la réforme.
Ouais, et puis tout le monde qui dit aujourd'hui, vous savez, on ne va pas la faire parce que ce n'est pas populaire. Mais est-ce qu'une réforme doit être faite parce qu'elle est populaire ou parce qu'elle est nécessaire ? Elle est nécessaire et on a inventé un beau proverbe qui s'appelle un mal nécessaire. Donc, à un moment, ça fait mal, mais c'est obligatoire. Donc, la réforme des retraites, elle doit se faire parce que c'est logique. À partir du moment où vous avez des gens qui meurent à 65 ans, tout se passe bien avec plein d'actifs. Et s'ils meurent en moyenne à 83, il y a une équation qui tient plus. Bon. Et puis surtout, alors le corps, je crois, qui gère les retraites ou les prévisions de retraite, qui sont, je pense, à peu près plantées de façon systématique depuis qu'il fait des prévisions, a juste oublié un détail, un léger détail. C'est que l'automatisation, qui était en plein investissement depuis une vingtaine d'années, commence à produire ses fruits. Pendant le Covid, les investissements en automatisation étaient doublés, triplés, quadruplés, notamment en Chine ou aux États-Unis. Pas la robotisation, l'automatisation.
Distinction ?
Le robot, vous faites un geste toute la journée, vous mettez un robot qui fait le même geste dans l'usine et il vous remplace. L'automatisation, c'est vous collectez de l'information, vous organisez cette information, vous la lisez et vous prenez des décisions. Tout ça, en fait, peut être automatisé par un process qui lit. Et typiquement, c'est, l'auditeur d'un grand cabinet d'expertise comptable qui fait des sondages sur le bilan d'une entreprise. Il en fait 5 ou 6, parce qu'en 2 ou 3 mois, il ne peut pas en faire plus, lire tous les chiffres. L'automate, lui, il va lire la totalité du bilan et en quelques secondes, vous ressortir tout. Aujourd'hui, c'est 40% des auditeurs en moins dans tous les cabinets du monde. C'est des gens qui, en moyenne, non seulement sont moins nombreux, mais demain seront moins payés. Donc ce qu'on oublie, c'est 2 choses. 1, l'impact d'automatisation dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire 2030, ces fameuses prévisions qui vont s'écrouler totalement parce que simplement le nombre de gens qui travaillent sera moins important. Ce qu'on dit, oui, mais cette productivité se recycle, ils se reconvertissent. Non, 10% des gens qui bossent dans les cabinets d'expertise comptable
Des gens qualifiés.
Ont déjà disparu aujourd'hui et ils ne sont pas remplacés.
On les remplace par ChatGPT, genre de choses.
Oui, alors l'automatisation, c'est un truc un petit peu plus fin, mais qui utilise des technologies qui font appel à ça.
C'est-à-dire la collecte de données, remplacés. On peut analyser des milliards de données.
Même le Radiolab, aujourd'hui, on sait depuis 3 ans qu'une intelligence artificielle lit votre radio et ressort un bilan et regarde même en amont, en aval, ce qui se passe que le radiologue ne fait pas et sort un résultat qui demande juste son contrôle à lui pour. Donc le radiologue, on n'a pas mesuré l'impact d'automatisation, ni en nombre d'emplois et encore moins en valeur de salaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, un auditeur, c'est quelqu'un qui peut gagner 100, 150, même jeune, 100, 150 000 euros. Demain, pour la tâche qu'il aura à faire, même s'il est encore là, on te dira, vu ce que tu as à faire derrière la machine, en gros, on va te payer 30 ou 40 000 et sois content. Bon. Si vous faites, comme aux États-Unis, une voie avec des capteurs pour les camions autonomes, vous perdez 300 000 emplois de gens qui ont conduit un camion toute leur vie, qui ne sont pas qualifiés, dites-moi s'ils vont devenir data scientists demain, puisqu'il y a soi-disant des jobs créés par le digital. Bien sûr, il y aura des jobs créés par le digital. Une très large partie sont des gens qui ont besoin d'avoir 18 en maths, en gros, et ce n'est pas forcément sans aucune arrogance, ce n'est pas le chauffeur-livreur qui a 30 ans de carrière dans son camion.
Mais ce que vous dites, Denis Jacquet, c'est qu'en fait, la suppression de postes d'auditeurs dans les cabinets comptables, ce sont quand même des postes qualifiés qui disparaissent.
Oui,
ce ne sont pas des postes, ce n'est pas une main-d'œuvre non qualifiée. On l'a dit pendant très longtemps, mais c'est la main-d'œuvre non qualifiée qui subit de plein fouet la crise.
La robotisation tue beaucoup de jobs roboratifs assez peu qualifiés. Typiquement, Foxconn qui fait l'iPhone depuis des années à Taïwan et en Chine, c'est la plus grosse boîte du monde, je crois que c'est 1,5 million de salariés. Le patron que j'avais rencontré d'ailleurs à Singapour, pas à Singapour, mais à Taïwan il y a 5 ans, disait, venait d'annoncer qu'il remplacerait 1 million d'ouvrières par 1 million de robots en moins de 10 ans. Ça, c'est de la robotisation. Ces femmes qui ne savent pas lire, pas écrire, ne retrouveront jamais un job de leur vie. Point. Donc leur vie est juste finie, sacrifiée, parce qu'elles vont se tourner autour des autres usines, seul job qu'elles peuvent tenir du fait de leur niveau de formation, et les autres disant, bah, nous aussi on est robotisés, on n'a pas besoin de toi. Ça, c'est la robotisation. L'automatisation, elle touche toutes les gammes de la société. Les études, alors, je sais plus, c'était McKinsey ou Gartner, disaient, tous les jobs de la Terre sont automatisables entre 42% et 82%. Tous, sans aucune exception. Donc, ce qui signifie qu'effectivement, à un moment donné, non seulement vous prenez sur le job de l'homme, vous avez besoin de moins d'hommes, mais surtout, vous diminuez leur valeur. Est-ce qu'on... C'est pas trop le fantasme de tous les jobs vont être remplacés. C'est leur... la valeur qu'on leur attribue qui va être remplacée. Donc, des gens qui se disent, waouh, j'ai fait des études. J'étais d'un milieu modeste, pas comme moi, mais qui, grâce à une grande école, on fait un bond social, mais on est très peu nombreux. Et on va avoir une opportunité, se dit, waouh, j'arrive, je vais être auditeur, je vais gagner ma première année 60 000. Ben non, mon gars, non seulement soit tu n'auras pas de job dans ce milieu-là, mais en plus, tu seras payé 20 ou 30. Un radiologue à Paris, quand il a un bon cabinet, chaque mois, dans sa poche, il a 30, 40, 50 000 euros. Ben demain, il sera sûrement toujours là, encore dans 10 ans, dans 15 ans. Mais il aura combien? 5, 6 000? Donc toutes ces cotisations qui sont calculées non seulement sur le taux d'emploi, sur le salaire moyen de ces catégories et sur le nombre, sont juste archi, archi, archi faux. Quand on va se réveiller en 2030 avec un soi-disant équilibre, on va avoir sérieusement mal à la tête.
Oui, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de cotisation. Il y aura...
Personne dans ces bureaucrates ne sait même ce que c'est qu'un process d'automatisation ou l'impact de l'intelligence artificielle. Pas un seul, je crois qu'ils n'ont jamais entendu le mot.
Ouais. Mais ça veut dire que l'automatisation ne produit pas de cotisation.
Alors, l'automatisation, le pari, c'est qu'à un moment donné, on va dégager l'homme sur des tâches éventuellement plus intelligentes et plus productives. Moi, je veux bien y croire. Pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit, oui, mais vous savez, la théorie du ruissellement, le trickle-down, comme ils appellent les Américains, c'est tout ce gain de productivité à terme va être renvoyé à la société pour créer des choses. Mais à un moment donné, si vous avez des jobs robotatifs qui sont tués par la robotique et une réduction des jobs par l'automatisation, il faut m'expliquer quel job massif on va inventer. Il y avait un type qui était un des grands pontes d'Apple dans les années 90, Kai Fu Lee, un chinois, taïwanais, qui est rentré ensuite pour devenir le patron de Google Chine et qui a monté Sinoventure. C'est un des plus gros fonds, c'est un gros fonds en Chine, qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle AI, comme Artificial Intelligence, China, US and the Superpowers. Et j'ai eu le plaisir et l'occasion de discuter avec lui à deux reprises. Je lui dis, mais dans votre bouquin, vous décrivez en gros que tous les jobs vont disparaître progressivement et qu'on n'a aucune espèce de solution de remplacement à hauteur de ce qui disparaît. On va en créer, mais pas assez. Il me dit, bah, la seule solution, c'est ce qu'il appelle la solution du care, c'est-à-dire le fait de dire, bah, il y a des millions de gens qui deviennent vieux dans le monde, il va falloir s'en occuper. Mais il me dit, je ne sais pas comment ça va se produire, d'abord parce que qui va financer ça? Donc quand vous aurez 78, 80, 85 ans, peut-être 100 ans demain, qui va s'occuper de vous? Et moi, ma belle-sœur qui aide à domicile, etc., elle me dit, quand on passe une annonce, il n'y a personne ne répond. Donc éventuellement, même quand il y a le financement, vous ne trouvez personne. Bon. Et donc du coup, la question, c'est sympa, on voit cette masse énorme dont on a besoin, mais on ne sait pas qui va les financer. Donc du coup, bah, ça revient sur les débats sur le revenu universel, parce qu'on sait très bien que demain, il faudra pouvoir payer des gens qui ne travailleront pas.
Voilà. C'est ça, le revenu universel, c'est une forme de partage imposé, voilà, ou normalisé. Ouais. On se dit, ouais, de toute façon, s'il n'y a pas de possibilité d'honorer l'offre, il n'y aura pas de demande.
Bien sûr.
Donc il faut créer...
Et après, il y a deux revenus universels, sans rentrer, ouais, dans le détail. Il y a celui de la Silicon
Vous êtes favorable
Valley, très, très libéral, qui, ouais, dit, tu vas consommer... Avec le peu que tu as, je vais te donner un peu de l'argent, tu vas me donner de la data va me rendre plus riche, moi Google, moi truc, moi machin. Et en fonction de ça, bah, tu auras un revenu. Donc en fait, grâce à tout ce que tu me donnes de ta data, je vais te rémunérer. Mais en fait, tu me rends un service. Et puis, il y a le revenu universel à la Benoît Hamon, la précédente présidentielle, qui, oui, dit, qui est très gentil, Benoît Hamon, mais qui n'avait pas compris la différence entre automatisation et robotisation, qui a dit, on va taxer les robots qui remplacent les hommes. Et puis, avec cette taxe, on va alimenter les gens et un revenu universel. Bon, on a déjà le RSA, on a tout un plein de trucs dont, d'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne le demandent même pas, ce qui est d'ailleurs très étonnant. Bon. Donc, du coup, En fait, le revenu universel, il y en a plusieurs acceptations différentes et pas du tout avec le même fonctionnement. Les États-Unis ne l'envisagent pas du tout de la même façon. Enfin, en tout cas, la Silicon Valley, qui investit dans l'automatisation et qui voit bien ce qu'elle est en train de faire, dit, bon, avec l'immense argent qu'on va générer, bah, on va ruisseler. Mais pour tous ceux qui se promènent à Los Angeles, à San Francisco, qui sont devenus, je suis désolé, des dépotoirs à SDF, on voit bien que ça ne marche pas, le ruissellement. C'est une honte, ce qui se passe là-bas. C'est pour ça que tous ceux qui votent démocrate se disent « Mais alors, on est surfiscalisé, il n'y a plus de sécurité. Et en plus, dans ce pays, on a un nombre à San Francisco record dans le monde de milliardaires. On a des gens qui vivent par milliers dehors sans aucun espoir de s'en sortir dans un pays qui n'a pas de chômage. » Donc, bon, voilà, il y a un truc qui ne marche pas. Enfin, moi, j'adore les États-Unis, mais là aussi, il y a un truc totalement défaillant.
Oui. Est-ce qu'on est condamné à la paupérisation? Est-ce que cette automatisation amène la fin du travail, mécaniquement? Et jusqu'où peut-on aller dans ce système qui paraît absurde, kafkaïen en fait, d'avoir une automatisation qui gère notre vie, mais en fait on n'a plus de vie parce que le travail disparaît.
C'est vraiment une vraie question que je me pose depuis un moment, parce que j'arrêtais pas de dire sur les plateaux depuis très longues années, moi je suis entrepreneur, j'ai pas créé une boîte pour créer des emplois. L'emploi c'est une conséquence de ma réussite, mais c'est pas mon but le matin de me dire « Waouh, je vais créer des emplois ». Non, j'ai une idée, je veux développer une entreprise, et dans ce cheminement, j'embauche des gens, éventuellement, si je les trouve bons,
c'est d'honorer la demande.
Parce que s'ils donnent de la valeur à ma boîte, j'ai envie de le partager avec eux. D'où ce débat, je crois, qui revient en France sur comment on partagerait mieux par un actionnaire salarié renforcé. Je pense que c'est une très bonne idée. Xavier Fontanet l'avait fait chez Issilor, 15% de l'actionnariat, ce sont des salariés. C'est une force très importante dans l'entreprise qu'on peut embarquer chez Auchan. Depuis très longtemps, il y a une participation, etc., qui est très forte. Et ça a permis l'adhésion au modèle. Ça ne garantit pas que la boîte marchera bien, mais ça crée un socle social beaucoup plus important. Et là, j'en arrive, quand je vois ce qui est en train de se profiler, à me dire que peut-être on devrait vraiment réfléchir à faire en sorte de partager encore plus la valeur créée par les boîtes, toujours avec les actionnaires, parce que s'ils investissent, pourquoi est-ce qu'ils ne récupéreraient pas leur argent, et plus que leur argent, enfin, c'est le principe de l'investissement. Surtout qu'une partie des investisseurs, c'est les fonds de retraite. Donc avec l'argent qu'ils gagnent, ils payent vos retraites. Derrière, on dit « Ouh, les méchants investisseurs, ils gagnent de l'argent ». Mais avec quoi tu crois qu'ils payent ta retraite, on a envie de dire, d'ajouter à la fin, abruti. Donc du coup, à un moment donné, il faut bien que ça gagne les gens de l'argent. Les fonds de pension aux États-Unis, c'est eux qui payent la retraite. S'ils gagnent plus d'argent, ils sont en faillite, vous avez juste des retraités qui vont mourir sur pied. Bon. Donc du coup, j'en viens, moi, entrepreneur libéral, à me dire qu'à un moment donné, peut-être que notre rôle va être de faire en sorte qu'une partie de nos bénéfices, d'une façon ou d'une autre, reviennent vers nos salariés, soit en salaire augmenté, ce qui dégradera notre performance et notre rentabilité. Mais si c'est pour vivre dans une société qui se paupérise, de toute façon, on le prendra de plein fouet à un moment ou un autre. Donc je pense que malheureusement, il y a une forme de ce qu'on appelait avant le communisme, qui va prendre un nouveau visage. Le revenu universel, c'est finalement une idée un tout petit peu communiste, et qui va finir par s'insérer même dans des sociétés libérales. Et je pense que ça vient progressivement et on n'échappera pas à ce débat.
Merci beaucoup Denis Jacquet de nous avoir renseigné sur ces aspects de l'évolution économique, en particulier sur l'automatisation et autres sujets liés aux questions du moment. Vous êtes fondateur de Parrainer la Croissance, chef d'entreprise. À bientôt.